Bonjour Victoria, bonjour à tous les auditeurs francophones et francophiles de CILS FM 107,9. Alexis Gagnon au micro, bienvenue dans cette édition spéciale de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107,9 FM. C'est à une table ronde sur la présidentielle française que vous êtes conviés aujourd'hui, chers auditeurs. Des membres de la diaspora française de Victoria sont avec nous pour commenter l'élection d'Emmanuel Macron qui, rappelons-le, a remporté le deuxième tour du scrutin présidentiel français face à Marine Le Pen avec 66% des suffrages. Donc ces expats français, comme on pourrait les appeler, vont nous livrer leurs impressions et leur analyse dans quelques instants. C'est dans le débrief. Bonne émission à tous. À tout de suite. À l'antenne de CILS FM 107,9, votre fréquence communautaire francophone dans la grande région de Victoria. Édition spéciale aujourd'hui au lendemain de la présidentielle française. Emmanuel Macron élu président. On est en compagnie de ressortissants français. La diaspora française est représentée ici autour de la table du studio de CILS au 12-18 Langley au centre-ville de Victoria. On va faire rapidement un petit tour de table. À ma gauche, j'ai le journaliste Adrien Blanc. Bonjour Adrien.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Alors, tu animes à l'antenne de CILS l'émission Rendez-vous chaque semaine. On va parler avec toi. On a aussi Guillaume Kiefer, ancien directeur général de la radio, toujours disponible pour venir nous jaser un petit peu à la radio. Merci d'être là, Guillaume.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité.
Et du côté droit, avec une belle parité, deux Françaises, en commençant par Dominique Wozniak, responsable des communications de la Société francophone de Victoria. Merci d'être là, Dominique.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Et finalement, juste à ma droite, la directrice générale de CILS FM, Charlotte McCarroll. Bonjour Charlotte.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Alors on va pouvoir commencer. Ma première question est toute simple et je la lance. Est-ce que vous êtes soulagée par l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de l'État français?
Oui.
Oui, on peut répondre tous ensemble peut-être.
Oui, alors à l'unisson, c'est un oui qu'on entend. Et pourquoi?
Bon, je vais commencer puisque je suis au début du tour de table.
Oui.
C'est simplement parce que là, on avait un énorme clivage. Moi, dans ma petite vie, je n'avais pas vu de clivage aussi important. En 2002, il y avait eu Jean-Marie Le Pen contre Jacques Chirac. Mais là, la réaction avait été immédiate, des manifestations dans la rue, le choc, etc. Alors que cette fois-ci, en 2017, on voyait plutôt venir l'arrivée de Marine Le Pen au second tour. Et quand même, ça inquiétait. Il n'y a pas eu de réaction aussi indignée, aussi violente dans les rues, par exemple, parce que les gens s'y attendaient plus. Et donc de voir que une majorité des Français reste quand même pour un pays ouvert et... non autoritaire, je vais résumer comme ça, et eh bien ça fait du bien.
D'accord. Guillaume?
De mon point de vue, moi je suis soulagé bien sûr que Marine Le Pen ne soit pas au pouvoir, mais je ne suis pas vraiment rassuré dans le sens où on n'est pas vraiment certain de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Là, les législatives vont être extrêmement importantes dans 6 semaines. On est très peu au courant finalement de ce que propose Emmanuel Macron. Ce qu'on en a entendu finalement, c'est des vieilles recettes qu'on a déjà essayées. Quand on voit son entourage, comme avec Attali ou Alain Minc, c'est des gars qui sont là depuis plus de 30 ans, qui conseillent les présidents depuis plus de 30 ans et qui échouent depuis plus de 30 ans. Donc on va voir. Encore une fois, les législatives vont être très, très importantes. Et puis là, on pourra voir si on est un peu plus rassuré ou pas.
D'accord. Donc, on touche déjà à des éléments de réponse qui vont venir un petit peu plus tard. Dominique, soulagé?
Alors oui, je suis soulagée évidemment que Marine Le Pen ne soit pas passée, mais d'un autre côté, je suis un petit peu comme Guillaume, c'est-à-dire dans l'expectative, et surtout je me dis que quid dans 5 ans ? Est-ce que dans 5 ans, si le résultat d'Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur, est-ce que cette fois, ça ne sera pas Marine Le Pen qui va gagner ? Voilà. Ça, c'est ma grande inquiétude. Mais bon, vivons l'instant présent et espérons qu'Emmanuel Macron passe 5 années avec des succès.
D'accord. Et mentionnons à nos auditeurs que tu étais scrutateur lors des élections, ici localement, de la communauté française de Victoria. Ça s'est bien passé ? Rapidement ?
Alors, bon, déjà, je tenais à remercier le consul honoraire de Victoria, François Vikenel, pour toute l'organisation. Il avait avec lui, bien sûr, des équipes de bénévoles, des gens, des Français volontaires, qui se sont tous rendus à l'université de Victoria pour aider. Et puis, donc, je faisais partie de l'équipe des scrutateurs. Et je vous tiendrai aussi à remercier, évidemment, donc Audrey, Stéphanie, Daniel, Christine, Patrick, Laurence, Vincent, Marilène et encore une autre, Daniel.
Voilà. D'accord. On connaît certains de ces membres de la communauté ici à CILS et à l'ASFV. Formidable. D'accord, on y reviendra. Charlotte, soulagée ?
Oui. oui, vraiment soulagée. Et comme le disait Adrien, c'est vrai qu'en 2002, quand Jacques Chirac était opposé à Jean-Marie Le Pen, donc le père de Marie Le Pen, on a vu une montée... les gens étaient choqués dans la rue, ils essayaient de faire comprendre aux électeurs du Front National que c'était un danger pour notre démocratie. Et c'est vrai que cette année, personne n'était dans la rue. Et donc les gens n'avaient plus peur de dire qu'ils votaient pour un extrême, pour un extrémiste. Donc c'était ça la grande peur finalement, c'est que les gens étaient presque aujourd'hui fiers donc d'avouer entre guillemets leurs intentions de vote. Et en même temps, c'est la démocratie, donc on est tous libres de voter pour qui on veut. Et puis, comme l'a justement rappelé Guillaume, les législatives sont aussi très importantes. Donc, c'est pas parce que le président est élu que le gouvernement est formé.
Voilà.
Donc, les législatives arrivent et...
Les 11 et 18 juin.
Voilà.
Et généralement, il y a besoin d'un second tour pour les législatives.
Oui, aussi, oui.
Oui, ouais. OK. Donc, c'est... 11 et 18. OK. Oui. Intéressant.
Et puis, pour... effectivement, il y a une réticence avec le nouveau Emmanuel Macron. C'est aussi peut-être un résultat de l'échec de la droite et de la gauche. En tout cas, c'est vu un peu comme tel après le quinquennat de Nicolas Sarkozy en 2007 et après en 2012 de François Hollande. Donc je pense que Emmanuel Macron était vu comme un renouveau et peut-être une nouvelle chance. Et effectivement, les vieilles recettes sont aussi sur la table, mais peut-être qu'il donne un espoir de nouveau souffle entre les deux partis.
Mais Macron ne pèse finalement que 20 et quelques pourcents de l'électorat. Il va devoir gouverner maintenant pour tous les Français.
Mais ça a toujours été comme ça. Tous les présidents qui ont été élus ont toujours pesé une minorité d'électorat.
Oui.
Mais c'est un peu dans la culture française de pas de chercher celui qui fait la majorité de la population, qui plaît à la majorité de la population, mais un peu cet homme providentiel. Il faut rappeler que la Constitution de la Ve République a été créée par le général de Gaulle, qui se voyait comme l'homme providentiel. Et la tradition a toujours été de se réclamer du gaullisme et de cette tradition de l'homme fort, représentatif de toute une nation et qui va œuvrer pour l'intérêt général, même si à l'origine, il était minoritaire par le fait de l'arithmétique.
D'accord.
Donc Macron va devoir essayer de rassembler, c'est toujours un peu le mot d'ordre après une élection, rassembler toute la population... pour avoir une majorité au Parlement et puis mettre en place les fameuses réformes qu'il a annoncées quelques mois avant l'élection.
Mais qui est-il, Macron ? Qui est-il ? Comment le décrivez-vous à vos amis canadiens, maintenant qu'il est président ?
Pour moi, c'est l'ancien ministre de l'économie. C'est quelqu'un qui a fait toutes les grandes écoles, les meilleures écoles de France, qui a travaillé dans la banque. J'avais lu un article du magazine Society qui était très intéressant parce qu'il disait... Macron, très tôt, a pensé à être président de la République. Mais lui, au lieu de passer par les grandes écoles et les hautes administrations, il s'est dit « Je vais aller bosser dans la banque parce que c'est le meilleur moyen de se faire des relations avec les personnes qui comptent. » Et après ça, il a voulu se lancer en politique. Et donc, c'est en entrant dans le conseil consultatif de Jacques Attali, le fameux économiste, que là, il s'est fait connaître du milieu politique et qu'ensuite, il a pu devenir ministre de l'économie et finalement candidat à la présidentielle.
Donc Attali, un libéral. Hein,
ouais. Qui prenait, voilà, Attali, son mot d'ordre, c'est, on va dire, de décoincer l'économie française, assouplir, etc. Donc, il avait suscité
donc,
de nombreuses manifestations en France.
Déréglementer,
voilà,
libéraliser,
ouais,
ouvrir les frontières. Guillaume ?
Moi, je vois un peu, je le décrirais comme quelqu'un d'assez opportuniste, qui a profité d'une situation. Il a vraiment profité d'une situation. Les primaires qu'il y a eu pour la droite et pour la gauche ont cassé ces deux partis. Le PS et l'UMP ont voté pour des candidats qui étaient extrêmes dans leur propre camp. Et Macron a trouvé une place au milieu. Donc,
ouais.
Je pense qu'il a évidemment du talent. Un talent de communicant. Il est très bien entouré pour ça. Après, voilà, on le connaît finalement très peu. J'ai hâte de le voir.
Il n'a jamais été élu.
Jamais élu. Le seul qui
avait
été élu auparavant dans la Ve République, c'est le général de Gaulle. Mmh. C'est celui qui a créé la Ve République. Donc, jamais élu. Il y a quelque chose qui me dérange un peu quand tu dis que 20% de personnes ont voté pour lui et que c'est toujours comme ça en France. Il y a quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui au premier tour déjà pour faire barrage au Front National. Il y a beaucoup de gens le fameux vote utile. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont voté pour lui pour faire barrage au Front National, mais pas pour ses idées, pas pour son programme. Et c'est là où je trouve où il y a une grosse différence par rapport aux autres élections.
Donc déjà, dans le pourcentage de Macron au premier tour, il y avait déjà une stratégie de la part de l'électeur,
ça se voyait dans
de certains
meetings.
Électeurs.
Quand tu regardes les reportages qui se passaient dans les meetings, il y a beaucoup de gens qui étaient là, c'était toujours plein ces meetings. Ça par contre paraît très très bien organisé, très impressionnant, avec beaucoup de bénévoles, qu'il appelait, il avait un nom anglais pour les bénévoles, et je ne sais plus comment...
Les associés,
non
comme chez
Warren. Vraiment anglais, enfin bon. Donc ça c'était très bien. Et puis dans le public, quand tu allais interviewer les gens dans le public, il y a beaucoup de gens qui étaient là pour voir.
Ouais.
Je suis là parce que je ne sais pas bien, j'hésite. Il y avait très peu, en fait, de fervents partisans comme on peut trouver dans les autres, meetings. Donc, beaucoup de monde, mais qui était le plus là pour le spectacle, finalement, que pour les idées.
Est-ce que ce ne serait pas lié au fait que son parti était nouveau ?
Probablement, mais après, voilà, moi, si je me déplace, après, c'est mon point de vue, hein, mais si je me déplace voir un meeting politique, c'est vraiment pour soutenir quelque chose, c'est pour mettre en avant quelque chose. Et là, vraiment, la majorité des gens n'avait aucune idée. Quand on leur demandait à la fin du meeting pour qui allez-vous voter, la majorité disait on ne sait pas. Ils n'étaient toujours pas sûrs. Donc voilà. Et puis dans ces meetings, il y avait finalement très peu de réponses, beaucoup d'incantations, on lui reproche un peu son caractère un peu christique des fois, comme hier quand il chantait la Marseillaise, les yeux fermés, la main sur le cœur. C'était assez particulier.
Il faut se souvenir de Ségolène Royal aussi, qui avait un peu cette image christique où elle avait tenu un meeting sans pupitre, elle était face à la foule et puis elle criait des grands mots, fraternité, etc. Ça avait fait rigoler
aussi.
Mais
ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans les meetings de Macron. Il y a beaucoup de journalistes qui disaient que ça leur faisait penser aux évangélistes, aux grandes messes évangéliques qu'on peut trouver.
C'est des techniques apprises qu'il a maîtrisées et qu'il a appliquées, finalement.
C'est quelqu'un qui vient du théâtre.
C'est quelqu'un
une formation de théâtre. D'ailleurs, son épouse a été sa prof de théâtre. Donc, c'est pour cela qu'elle est toujours avec lui, qu'elle le conseille en permanence. Et surtout, il est très bien entouré de communicants et sur les réseaux sociaux.
Elle n'était pas là lorsqu'il a marché seul vers la pyramide. Mais bon,
c'est la seule fois.
C'est la seule fois.
Mais sinon, voilà, il a un réseau de communicants, des jeunes qui sont tout le temps sur Internet, sur Facebook, sur tous les réseaux. Justement contourner les rumeurs, pour essayer de le faire mousser, etc.
Oui.
Et il a lui-même...
Parce qu'il y en a eu beaucoup des rumeurs à son sujet.
Il a mis en scène sa vie en faisant la une de Paris Match. Il a lui-même communiqué une vidéo de son mariage, vraiment très intime, qu'il a diffusé sur les réseaux sociaux.
Donc ça l'a aidé.
Donc, je ne sais pas si ça l'a aidé, mais en tout cas, ça le fait peut-être un peu plus connaître. Et puis, connaître plus intimement. Mais au fond, on ne sait toujours pas son programme.
Mais si un Canadien qui vous demande, finalement, il est comme Justin Trudeau, qu'est-ce que vous répondez?
Alors, c'est une très bonne remarque, Alexis, parce que ma sœur, ce matin, m'a dit, c'est marrant, il me fait penser à Trudeau.
Un peu jeune premier.
C'était un peu une petite blague, mais je pense qu'effectivement, ça, on peut éventuellement faire le rapprochement. je connais pas assez bien la politique canadienne pour et puis celle de Macron pour dire si oui ou non c'est similaire, mais rien que effectivement pour en tout cas l'implication de la première dame avec une très forte communication dans les réseaux sociaux, y a un rapprochement qui pourrait se faire. Par contre, bon, Macron, il sort pas non plus de nulle part. Comme l'a rappelé Adrien, il a fait les grandes écoles. Il a été ministre de l'économie.
L'ENA, donc l'École nationale d'administration publique.
Oui, c'est ça.
C'est ça, oui.
Et il a été ministre de l'économie pendant 2 ans.
Oui.
Donc, ce sont pas, enfin, je veux dire, il a pas juste fait du théâtre, il est pas
non.
juste bon sur les chaînes YouTube. Faut pas non plus penser que c'est juste un très bon communicant. Oui, il a fait ces écoles-là, donc il est, comment dire,
c'est quelqu'un de brillant.
Oui, enfin, brillant, on le
verra. Mais est-ce qu'il a été clair à propos de son programme et de ses intentions? Est-ce qu'il a été clair? Est-ce que les gens, l'homme de la rue, sait quel est le programme de Macron?
Je ne pense pas. Et à mon avis, ça va être un peu la grande désillusion qui va arriver. C'est quand on voit un peu les réformes, enfin, les prétendues réformes qu'il veut mettre en place sur le code du travail, sur l'assurance chômage. Ce sont ces grands chantiers. Là, ça va soulever beaucoup de...
Oui. On le voit en filigrane.
Et il a exactement expliqué qu'il allait faire énormément de choses par ordonnance, donc sans passer par le Parlement.
Donc en dehors du processus démocratique.
En dehors du processus démocratique. C'est quelque chose qu'il avait déjà utilisé pour faire passer la loi travail. Il avait utilisé le 49.3, qui est un autre système qui permet aussi d'imposer, d'imposer au Parlement quelque chose.
Oui.
Et ça, je trouve ça inquiétant, encore une fois, dans le sens où il y a finalement pas énormément de gens qui ont voté pour lui, vraiment pour ses idées et tout. J'ai vraiment peur dans les prochaines semaines, s'il décide finalement d'agir comme ça, on verra, il peut toujours changer d'avis. J'ai peur des mouvements sociaux qui vont
arriver par la suite. Oui, parce qu'on le soupçonne de vouloir jeter à bas l'édifice social du pays, l'État-providence. Est-ce qu'on doit craindre une libéralisation accélérée, une nouvelle phase d'austérité relancée qui répondrait aux dictats de l'Europe? Est-ce que c'est ça qu'on va recevoir comme médecine? Oui.
Non, dictat, je ne sais pas. Il est très inspiré de ce que dit la Commission européenne, de ce que propose.
Oui.
Après, ce que dit la Commission européenne, c'est imposé par les États. Donc, en fait, lui, il est dans ce mouvement qui est en tête de l'Union européenne en ce moment, qui est de libéraliser, de ne pas trop impliquer l'État, de surtout assurer la libre concurrence, etc. Lui, il est à fond là-dedans. Donc, on va le voir. Pro-commerce international, etc. Libéraliser, disons que il a un certain volet social, mais est-ce que c'est un volet social par conviction ou est-ce que c'était juste pour rassurer les lecteurs?
Oui. Que c'est cosmétique ou est-ce que c'est réel? Il a
donc,
souvent dit.
Il promet des investissements, mais avec quel argent? Voilà, c'est toujours la même question qui se pose à chaque élection.
Il a souvent dit je suis de droite et de gauche.
Oui. Ou ni droite ni gauche.
Oui. Il expliquait au niveau économique, par exemple, qu'il voulait vraiment libéraliser l'emploi. C'est-à-dire permettre aux entreprises d'être beaucoup plus libres. En France, on a le contrat à durée indéterminée. C'est très compliqué de renvoyer quelqu'un et d'embaucher quelqu'un aussi. Donc, il veut libéraliser ça. Donc, il expliquait ça l'autre jour. Et en même temps, protéger ceux qui sont le plus faibles et ceux qui ont le moins de possibilités. Ça me paraît par contre intéressant. La formation, il veut mettre en avant la formation.
Oui.
Parce qu'on sait très bien que maintenant, on ne peut plus passer toute sa carrière dans un même métier, dans une même entreprise. Ça n'arrive plus, ça ne se fait plus. Donc,
ou une entreprise qui ferme, quelqu'un qui a 52 ans, on ne va pas lui donner un autre emploi dans la même filière. On va essayer de le former, si possible, pour qu'il puisse intégrer une autre industrie.
Voilà, et ça, c'est un très, très gros chantier, les formations, parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont un peu inutiles ou qui sont mal faites, qui ne permettent pas aux gens d'être vraiment, vraiment formés correctement. Donc ça, c'est quelque chose vraiment, moi en tout cas, je vais faire très attention à ça parce que je trouve que c'est quelque chose de très, très important.
D'accord. À gauche, on a souvent entendu, il veut ubériser la France. Il veut chacun pour soi. Je suis responsable de ma propre réussite, de ma propre prospérité. On vous donne les moyens, la formation soit, mais on dirait qu'il veut vraiment... comment dire,
Responsabiliser
les gens. Bon, c'est un discours qu'on a souvent entendu. Mais cette critique là d'Uber, qui est une application de transport qui a justement mis fin à l'industrie du taxi, est-ce que c'est une image qui vous fait peur ou l'ubérisation de d'autres secteurs de l'économie.
C'est une question très détaillée. Enfin, c'est pas un détail, mais je pense pas que ce soit un des points les plus importants de son programme économique. Peut-être pour en revenir à la formation dont Guillaume faisait allusion plus tôt. Il veut investir énormément dans effectivement la formation et particulièrement pour la transition écologique. L'écologie est quand même un des points importants dans son programme.
Ah bon? Ouais. On l'a peu entendu parler.
Particulièrement pour la transition écologique.
D'accord.
Il veut investir particulièrement dans les qualifications, dans les formations des personnes pour arriver à une transition
dans le renouvelable.
Écologique. Alors dans le renouvelable, dans plein de secteurs de l'écologie. Mais et en ça, moi je trouve que c'est intéressant aussi. C'était plus pour rebondir par rapport à son programme. Quand on disait qu'est-ce qu'il a comme programme, il y a quand même plusieurs choses qui sont intéressantes dans son programme. Même si au début c'était un peu flou, moi je pense que tout à l'heure je regardais encore sur son site, son programme commence à être de plus en plus détaillé. Alors bon, il y a toujours la question de d'où viennent les sous.
Oui.
Ça, c'est la question que tout le monde se pose.
Parce qu'il ne s'attaquera pas forcément à l'évasion fiscale, il n'aura pas nécessairement taxé les énormes fortunes. Alors, où prendra-t-il les ressources?
Il veut relancer vraiment la France comme leader de justement cette transition écologique, la révolution numérique et la révolution urbaine aussi, parce que nos villes changent et effectivement tout change, enfin tout évolue à une vitesse incroyable.
Oui.
Quand on parle d'ubérisation.
Il a libéralisé le transport d'une certaine manière lorsqu'il s'est attaqué au car, au bus.
Pour faire baisser les prix du bus, oui, pour mettre plus de bus sur les routes.
Donc ça c'est un peu
anti-écologique, mais disons que c'était un peu... j'ai l'impression, quand il était ministre de l'économie, qu'il était un peu dans la réaction. Il a toujours voulu apporter ses petites corrections, voilà, une petite mesure par-ci, une petite mesure par-là pour réagir, un peu comme avait recommandé la commission Attali, qui proposait une petite mesure par-ci, une petite mesure par-là, en disant ça va créer un choc, ça va changer les mentalités, et du coup les Français vont s'y libérer, les entreprises vont moins avoir peur, elles vont plus embaucher, etc. Et avec les bus Macron, c'était un peu cette idée-là. On va lancer des bus sur les routes, comme ça, ça sera moins cher, les gens n'hésiteront plus à plus voyager, ça va favoriser le tourisme, etc. Et j'ai l'impression que c'est cette mentalité-là qu'il propose aussi pour la présidence à venir. C'est pour ça que son programme, oui, c'est vrai, il propose la transition écologique, il propose différentes révolutions, mais bon, je n'ai pas lu encore le programme aujourd'hui.
C'est quand même 15 milliards de dollars, donc c'est un gros investissement.
Ou d'euros.
Oui.
D'euros, pardon.
Mais non, faut dire...
Oui. Une partie pour... Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Il a annoncé aussi qu'il voulait supprimer 150 000 fonctionnaires. Donc ça c'est une grosse économie. Honnêtement, je souhaite bon courage pour trouver où en enlever, quoi. Surtout dans les hôpitaux, ils ont un besoin incroyable. Au niveau de l'ubérisation de la société, qui est un mot incroyable.
Oui.
Par exemple, les universités. Il veut rendre les universités, pardon, beaucoup plus autonomes.
Oui.
Et favoriser les liens entre le privé et les entreprises privées et les universités. C'est quelque chose qui a déjà été entamé sous Sarkozy, qui continue maintenant et qui veut l'amplifier. Nous, on a la chance en France d'avoir des universités qui sont à un prix très raisonnable.
Oui.
Très, très raisonnable.
Environ 500 euros par an.
Par an, ouais. Ça dépend de quelle université, quelle filière, mais c'est à peu près ça. Et voilà, moi, j'ai un peu peur que cette spécificité en France où, finalement, même si tu n'as pas beaucoup de moyens, tu peux réussir à faire des études, j'ai peur que ça s'arrête.
Et quand l'université accroît ses liens avec l'entreprise privée, elle reçoit des mandats de trouver des trucs pour l'entreprise privée, de faire de la recherche pour l'entreprise privée.
En fait, ce sont des diplômes soutenus par telle ou telle entreprise. Et donc, le diplôme est fait de telle sorte qu'il soit un peu utile à l'entreprise, pas à fond complètement. Tous les étudiants n'iront pas dans cette entreprise.
Mais il y a une dérive possible.
Ouais.
Disons que ça va spécialiser certains diplômes et il y a le risque d'être sur d'autres diplômes qui sont très larges, sociologie, psychologie, qui eux ne vont pas changer et qui ne mèneront à rien. Donc on va avoir une, comme on dit, c'est encore la phrase consacrée, mais l'université à deux vitesses. Ceux qui vont vite et qui trouvent quelque chose, et puis ceux qui vont pas vite parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Et en même temps, ça rejoint un peu le format de l'alternance, qui en France, c'est une formation où on travaille comment dire, on est dans un cursus scolaire, par exemple un bachelor, et en même temps on travaille dans une entreprise, donc oui. C'est un contrat à trois parties, l'école, l'entreprise et vous-même, et c'est l'entreprise qui finance. Avec des subventions, bien sûr, aidées de l'État, mais l'entreprise finance la formation dans l'objectif de garder ensuite la personne. Donc ça, c'est pas pareil, mais c'est un peu... Moi, j'ai étudié de cette façon-là. Et d'ailleurs, oui. Je suis très reconnaissante de l'entreprise privée qui m'a embauchée pendant 3 ans pour ça.
Donc Macron veut aller plus loin dans ce sens-là ?
Bah, avec les universités, ça c'est plutôt... L'alternance, c'est plutôt avec les écoles privées.
Les universités font ça, je vais citer mon cas aussi, à l'école de journalisme, donc ça dépendait d'une université, mais c'était un institut, donc qui avait une certaine autonomie et qui était en partenariat avec des entreprises de médias. Donc on travaillait avec ces médias, on était en stage avec ces médias. Donc en effet, ça permettait d'avoir un pied dans le milieu professionnel. Mais ça, c'est pour quand on arrive à s'insérer dans, enfin, quand on en vient à s'insérer dans le marché de l'emploi. Mais quand on commence ses études supérieures, on est forcément dans des filières larges. Alors, quel financement pour ces filières larges ? Les entreprises ne vont pas investir là parce qu'elles n'y trouveront pas les étudiants tout de suite. Donc, si Emmanuel Macron maintient les budgets pour ces filières larges, d'accord. Mais si renforcer le partenariat avec le privé, c'est un prétexte pour réduire les financements aux universités.
Austérité.
Voilà. Mais ça va être ça.
Austérité en éducation, austérité en santé, en transport et dans les autres postes budgétaires de l'État social. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, n'a pas attendu 24 heures après la confirmation des résultats pour dire que la France dépense trop. Ça me fait penser à l'image qu'on a souvent entendue ici au Canada. Les citoyens doivent se serrer la ceinture parce qu'on a vraiment exagéré, on a trop dépensé dans les programmes sociaux. Alors là, on culpabilise la classe moyenne beaucoup et... on justifie des coupes énormes, des compressions énormes. Est-ce que il y a vraiment tout un cœur de voix européennes là qui vont vraiment soutenir Macron et lui assurer les arrières pour qu'il aille à toute blinde dans ses réformes?
Peut-être, mais je ne sais pas s'il a parlé justement des dividendes que font les grandes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, le problème est là aussi, c'est que les grandes entreprises n'investissent plus forcément en France parce que ça revient trop cher, et l'argent qu'ils se font part aux Bahamas ou ailleurs.
Et la France leur donne des quantités d'argent.
Donc le,
et
là, c'est
il n'y a pas de création d'emplois derrière.
Voilà, c'est là vraiment qu'il faudrait taper. Maintenant, le problème avec Macron, c'est qu'il vient de ce milieu. Donc aura-t-il le courage d'aller taper dans ces grandes entreprises et d'aller voir aux Bahamas
t'es pas d'accord.
Ce qui s'y passe ou en Suisse? Voilà, donc l'argent est là, il y en a, maintenant il faut aller le chercher. Je ne suis pas sûre que, venant d'où il vient et comment il a été élu, qu'il ait le courage de le faire.
Oui,
je ne pense pas que ce soit une question de courage, je pense que c'est juste pas dans sa culture.
Ou pas dans sa culture.
Lui, il est là, et après, à tort ou à raison, je veux dire, moi je suis vraiment aussi pour qu'on essaie de changer les choses. Mm-hmm. S'il y arrive, c'est très bien, vu comme il est entouré, ça m'étonnerait, mais s'il y arrive, je serais très content. Mm-hmm. Mais Il est pro-entreprise, ce qui est très bien. Il faut des entreprises, il faut qu'elles se développent, elles emploient des gens, elles créent de la richesse.
Oui, mais il faut que
les entreprises viennent s'installer, s'investissent. Et pour ça, jamais il taxera les dividendes sur les entreprises. Jamais. Au niveau européen, ils ne vont pas le faire non plus. Il y a des paradis fiscaux en Europe même. Le Luxembourg, par exemple, est un
L'Irlande.
Paradis fiscal. La plupart des entreprises déclarent leur revenus au Luxembourg. Mm-hmm. Donc c'est très simple. Et tant qu'il n'y aura pas une volonté, en effet, européenne, de changer ça, tant qu'il n'y aura pas une fiscalité européenne, rien ne changera. Et pour le moment, bon, Angela Merkel va peut-être changer. Là, il y a quelque chose qui va être intéressant en septembre en Allemagne. Mais pour le moment,
tu veux dire qu'elle va peut-être subir la défaite au rendez-vous électoral de l'automne,
oui.
De la rentrée.
Oui, par un candidat qui est très intéressant. Bon, je me souviens plus le nom, par contre, mais qui était, je crois, président de la Commission, non, président du Parlement européen.
Oui.
Et qui est de
Martin Schulz.
Martin Schulz, voilà.
Ok, Martin Schulz.
Sur Internet.
Hein. Socialiste. En effet, la question du rapport à l'Allemagne va être extrêmement importante parce que ça reste quand même encore la France et l'Allemagne qui donnent la ligne directrice pour la politique européenne au niveau des sommets européens. Et dans ces dernières années, on a vu que François Hollande, après avoir promis de faire pression sur Angela Merkel pour desserrer un peu les cordons de la bourse, n'a rien fait, quoi. Il s'est un peu écrasé. Et donc, Emmanuel Macron, quel rapport il va avoir avec Angela Merkel? Est-ce qu'il va apporter une voix différente de la France? Est-ce qu'il va permettre cette véritable relance dont on parle, cette coopération économique, cette politique économique, parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que l'Allemagne défend ses intérêts nationaux, défend sa vision d'une économie austère, où on respecte au chiffre près tel équilibre budgétaire, alors qu'on voit bien, je pense que la plupart des économistes se rendent à l'évidence, qu'il faut une relance, il faut une coopération économique, il faut que l'Europe parle d'une seule voix en termes financiers. Ça, ça fera peur aux entreprises. Pour ça, il faut que Emmanuel Macron sache parler aux Allemands et leur dire, nous, on a peut-être une vision différente, il faut peut-être lâcher un peu la bride là, et puis oser hausser le ton face aux grandes entreprises qui profitent des différences fiscales entre les différents pays européens.
Même le FMI, tout ça, ça. Hein. Même ouais. le FMI ouais, ouais. préconise, en effet, d'arrêter l'austérité.
Ils ont reconnu que les politiques d'austérité avaient été inefficaces.
D'abord du bout des lèvres, et puis finalement, de façon officielle, ils sont maintenant plutôt dans une logique keynésienne de relance et puis d'investissement pour stimuler la croissance.
D'ailleurs, Christine Lagarde, présidente du FMI actuellement, on cite son nom régulièrement dans un probable prochain gouvernement Macron.
Oui. Donc ce sera elle a été condamnée récemment.
Mais ça, tu sais, en France, c'est jamais un problème.
Hein. D'accord. Alors, justement, quand Marine Le Pen taxait Emmanuel Macron durant la campagne d'européiste, qu'est-ce qu'elle voulait dire, selon vous? Européiste, c'est quelque chose qu'on entendait souvent dans la bouche du FN.
D'ouverture des frontières, peut-être? Certainement qu'elle, elle veut sortir de l'euro. Lui, il est plutôt pour l'euro. Donc, elle parlait d'un écu. Elle parlait de revenir à l'ancien franc. Je ne sais pas.
Oui.
Des choses finalement improbables.
Non. Nationaliste, protectionniste.
Oui, complètement improbable. Fermeture. Donc, fermer les frontières, c'est quasiment impossible. On ne peut pas revenir à une France au franc, puisqu'aujourd'hui, tout se fait en euros et c'est vraiment une force.
Mais d'où la détresse de l'électeur, peut-être c'est l'électeur auquel je m'identifie, mais la détresse de l'électeur qui voit que l'Europe est devenue technocratique, inféodée aux lobbies et aux banques. Mm-hmm. Et de l'autre côté, il y a Marine Le Pen qui propose un nationalisme archaïque. Il ne sait plus où loger l'électeur français. Quelque part.
Il y avait quand même une proposition à gauche, notamment avec Mélenchon, je pense, qui était aussi sur le même registre de sortir de l'Europe, ou en tout cas de faire plier l'Europe. Là,
mais c'est dommage de sortir de l'Europe quelque part. Mais c'est peut-être nécessaire vu ce qui est devenu l'appareil européen.
Moi, je pense que l'Europe, c'est une aventure humaine magnifique. Oui. C'est des peuples qui se sont mis ensemble. Ça fait 70 ans qu'il n'y a pas eu de guerre en France, en Europe. C'était jamais arrivé, donc c'est quelque chose de très important. Sauf que j'ai l'impression qu'on l'a fait à moitié, l'Europe. Voilà, faut plus, de mon point de vue, faut plus d'Europe, mais faut mieux d'Europe. C'est-à-dire que là, les peuples européens, il n'y a pas que la France, il y a la Grèce, il y a l'Espagne et l'Italie, l'Espagne qui a tellement souffert pendant la crise financière.
Oui. Et qui n'a pas de parti d'extrême droite.
Étonnamment. Ils ont salué El País a fait une première page très, très, très sympa sur Macron ce matin. Mais voilà, il faut juste que l'Europe se rende compte que leur peuple veut une harmonisation dans la fiscalité. Regarde, il y a un truc, j'ai vu un reportage.
Oui, Luxembourg, Irlande et compagnie.
Sur l'usine Whirlpool qui ferme en France. Bon. Ce qui se passe, c'est que les travailleurs européens peuvent aller dans d'autres pays européens pour travailler. On appelle ça les travailleurs détachés. Okay? Le problème, c'est qu'un Polonais, par exemple, qui va venir travailler en France, va toucher un salaire polonais, qui n'est évidemment pas le même. Il n'est pas du tout au même niveau. Du coup, les gars de Whirlpool France ont été voir, leur usine est délocalisée en Pologne, ils vont voir en Pologne, et ils voient ces gars qui travaillent et qui se galèrent comme eux, avec 400 euros par mois, alors que eux, en moyenne, en France, Whirlpool, les employés de Whirlpool touchaient en moyenne 1400 euros par mois. Eux touchent 400 euros par mois, et ils sont là, ils sont embêtés pour leurs collègues français, et disent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On nous offre du travail. Donc, c'est ça qu'il va falloir réussir, et ça va prendre du temps, et ça va être compliqué à faire. Cette concurrence qu'il y a entre les travailleurs européens, c'est un très, très gros problème. Donc, il y a la fiscalité, mais il y a aussi cette concurrence qui est faite entre les travailleurs européens qui, finalement, commence à dresser les peuples les uns contre les autres. Donc, c'est tout l'inverse de ce que voulait faire l'Europe.
Après, je pense aussi qu'il faut du temps. Effectivement, 70 ans qu'on n'a pas eu de guerre, ou un peu plus.
Dans la zone euro.
Alors, pour moi, c'est important. Mais il ne faut pas oublier que c'est 28 pays. 28 langues différentes, 28 cultures différentes, 28 à la base monnaies différentes. Et ça fait que quelques années aujourd'hui que l'euro est apparu en 2001. C'était il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'il faut aussi du temps pour que tout se mette en place, sachant que entre deux, il y a eu une crise économique. Depuis 2 ans, la France est en état d'urgence à cause du terrorisme. Donc, je pense qu'il faut aussi donner du temps. Et puis, effectivement, comme l'a aussi rappelé Adrien tout à l'heure, la Commission européenne, ce sont les États entre eux qui décident des choses. Donc, le temps que tout le monde soit d'accord, ou en tout cas la partie majoritaire, ça prend du temps. Donc, je pense qu'il faut aussi être patient. Et pour revenir au terme européiste, je pense que quand elle dit ça, elle vise l'extrême de pro-européen. Donc, c'est-à-dire l'ouverture des frontières. Donc, elle entend par ouverture des terroristes qui viennent en France.
Oui, et un pouvoir de plus en plus délégué à Bruxelles, voilà, de plus en plus transféré, la souveraineté finalement, de plus en plus...
Et les qui viennent prendre le travail aux Français et aux Européens.
Oui, voilà. Ça c'est un épouvantail.
Un bel épouvantail, notamment qu'il y a 300 000 Français qui travaillent en Europe, à l'étranger, comme travailleurs détachés aussi.
Oui, Adrien.
Peut-être un petit mot encore sur l'Europe pour dire que ce qui a favorisé autant la montée... du protectionnisme et du nationalisme en Europe, c'est que cette absence de projet européen. Je me souviens encore du débat sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il fallait que la Turquie entre ? Ça cristallisait tous les débats parce que tout d'un coup, on se disait, mais alors, quelle est la frontière de l'Europe ? Où est-ce qu'elle doit aller ? Et puis, la chute du mur de Berlin a fait aussi qu'on s'est demandé à quoi sert l'Europe, à part maintenir la paix et à l'époque combattre les soviétiques. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant de ce projet européen ? Et là, personne n'a été capable de dire quel va être le projet européen, quelles sont les frontières, qu'est-ce qu'on veut dans 50 ans par exemple. Si Emmanuel Macron arrive à vraiment donner confiance en disant voilà à quoi va ressembler l'Europe dans 50 ans et je vais y travailler très dur pour ça, peut-être qu'alors il va gagner un petit peu de confiance de la part des citoyens français et obtenir un peu plus d'adhésion. Au moins les gens sauront à quoi s'attendre. Parce que j'ai l'impression que là ce qui favorise aussi l'extrême droite, c'est cette peur de cette espèce d'Europe très lointaine, on ne sait pas ce qu'elle veut, les technocrates qui parlent un langage qu'on ne comprend pas. Et puis, alors que si le chef d'État français, lui, dit exactement où il faut aller et qu'est-ce qu'il va faire pour ça, ça peut avancer.
D'accord. Et il y a aussi la question du chômage qui favorise l'extrême droite. Le chômage, Hollande n'a pas réussi à le vaincre.
Je pense que c'est la peur du chômage. Parce que le chômage... Ça vient, je perds mon emploi, j'en gagne un autre très vite, même un meilleur, il n'y a pas de peur du chômage, et puis le chômage peut être bénéfique. Là, ce qui arrive, c'est qu'une grande partie de la population française a le sentiment de déclassement, c'est-à-dire que son travail est de plus en plus menacé. Un jour, le citoyen peut le perdre et ne pas trouver un meilleur travail, voire ne pas trouver de travail du tout. Et puis, il y a aussi ce sentiment de concurrence avec les autres chômeurs. Moi, j'ai entendu des gens qui votent Marine Le Pen qui se plaignent tout le temps de ces assistés, de ces étrangers qui viennent leur faire concurrence, ou de ces chômeurs qui ne cherchent pas vraiment et donc qui coûtent à l'État. On cherche toujours plus pauvre que soi, ou un pauvre qui est responsable de ce qui lui arrive. On cherche un coupable dans ce problème du chômage qui persiste.
Et un chômage plutôt élevé, ça ne déplaît pas forcément aux grands groupes, au patronat ?
Ça dépend quel chômage. C'est-à-dire qu'un chômage sert à l'économie libérale si ça permet de maintenir une pression sur les salaires, que les salaires ne soient pas trop élevés. Après, un chômage aussi larvé comme celui-ci, c'est un problème quand même pour l'économie, parce que ça veut dire moins de consommateurs, ça veut dire des gens qui n'ont pas forcément l'expérience ou les qualifications qu'on cherche. Et puis c'est aussi un chômage, je pense, qui est dû à la désindustrialisation de la France, qui fait que beaucoup de gens qui avant travaillaient à l'usine, aujourd'hui ne trouvent plus rien. Et donc c'est des gens qu'on ne peut pas réemployer et qui restent là à coûter à l'économie. Et les entreprises ne sont pas forcément toutes à bonne santé, on parle des grands groupes, mais il faut penser à toutes les PME, donc petites et moyennes entreprises, qui n'osent pas investir parce qu'elles ne savent pas de quoi sera fait demain. L'instabilité de l'économie, ça aussi, c'est un gros problème.
Parce que les PME sont aussi surtaxées comparées aux grandes entreprises qui, elles, le sont beaucoup moins ou pas du tout.
Y a des aides aux petites et moyennes entreprises, mais c'est toujours des aides au coup par coup, au projet. Et donc, ça veut dire monter des dossiers qui prennent du temps, etc. Donc, beaucoup de PME ne se lancent même pas dans l'aventure, quoi. Et si je peux continuer encore.
Oui.
Et j'avais eu la chance d'interviewer beaucoup de responsables de PME quand je travaillais comme journaliste en France. Et beaucoup nous disaient, on est très content avec les réformes qui sont proposées. À l'époque, c'était François Hollande, donc un socialiste. Il disait, c'est très bien ce que nous propose François Hollande, mais on sait que dans 3 mois, ça ne va pas marcher. Comme avec Nicolas Sarkozy, son prédécesseur, qui promettait des choses, puis revenait dessus, puis ça montait de 3%, ça baissait de 4%. Quand tu es une entreprise, que tu réfléchis sur 5 ans, tu ne peux pas te permettre comme ça de te dire ben, peut-être que finalement ça va être non, et puis les taxes vont augmenter ou baisser. Ou il faut de la stabilité.
Oui, Guillaume.
Il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié chez Emmanuel Macron, c'est quand il a été voir les employés de Whirlpool, il ne leur a rien promis. Il leur a pas dit on va garder votre entreprise ouverte parce qu'il ne peut pas le faire. Hollande l'a fait, il avait été voir, je crois que c'était ArcelorMittal à l'époque, il me semble. Il avait été voir cette entreprise, s'était mis debout sur un camion et puis avait fait un discours. Ça avait été extrêmement marquant comme image.
Avec des promesses.
Et avec des promesses. Et ces promesses ont été abandonnées, mais extrêmement vite. Mmh. Et ça, je pense que c'est un gros problème en France. C'est qu'on est un pays qui a du mal, à se réformer, qui a du mal à se voir dans l'avenir et à se projeter dans l'avenir. La désindustrialisation, il y a certains pays qui l'ont fait il y a bien longtemps et qui ont décidé ben, qu'ils allaient faire une autre forme d'économie, qu'ils allaient proposer d'autres travails à leurs citoyens, d'autres choses, et qui ont investi là-dedans. En France, nous, on n'a pas du tout fait ça. On a essayé de garder des poches ouvrières là, dans le Nord, en Lorraine. On a vraiment essayé de maintenir à flot certaines entreprises par des subventions.
C'est parfois l'électoralisme, quelque part.
Ah oui, complètement l'électoralisme, évidemment, du clientélisme.
Mais c'est aussi une conviction.
Et ça a été, c'est un travail qui n'a pas été fait les 30 dernières années. On change rien. On va comment on pouvait imaginer qu'on pouvait garder des entreprises industrielles comme avant, avec du travail à la chaîne comme avant. Il faut vivre avec son temps. Alors, il y a des poches comme dans le Sud-Ouest. D'ailleurs, c'est très marquant quand tu regardes l'image de ceux qui ont voté plus ou moins pour Macron ou pour Le Pen. La France est coupée en deux, quoi, entre le Nord et l'Est, et l'Ouest et le Sud, qui sont plus, et puis bon, Paris, qui sont plus vers les énergies renouvelables, qui sont vers les start-up, qui sont vers l'économie d'Internet, alors que tout ce qui est le Nord, la Lorraine, tout l'Est...
La partie industrielle, anciennement industrielle.
Qui a ramassé, et il va falloir... comment dire, Macron veut soutenir ce genre d'entreprise qu'on trouve dans l'Ouest ou à Paris ou à Lyon, dans les grandes villes. Donc il va soutenir ça, mais ce qui va être important, c'est le diffuser dans le reste de la France. Parce qu'on ne peut pas avoir... Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué sur cette élection, c'est la fracture qu'il y a en France.
Complètement. Et qui rappelle ce qu'il y avait aux États-Unis, ce qu'il y a dans d'autres pays.
Tout à fait.
Au Royaume-Uni, cette énorme fracture au sein de la population entre ceux qui ne croient pas du tout à... peut-être même à la politique, enfin, qui ne croient pas dans des projets européens.
Les oubliés. Ouais,
qui se sentent oubliés, déclassés.
Les oubliés, ils ont voté Le Pen.
Oui. Qui se disent que c'était mieux avant.
Il y a une France qui souffre. Vraiment. Je veux dire...
Mais oui, vous avez des dizaines de milliers de SDF, des sans-abri.
Des dizaines de milliers, t'es gentil. Hein. Il y a des gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture en France. Et il y a eu un reportage magnifique sur Envoyé spécial l'autre jour, où finalement... Je t'assure, hein, tu comprends pourquoi les gens votent Front National, tellement ils sont désespérés. Et il y a vraiment cette France-là, des campagnes, c'est des petites villes, c'est des banlieues et tout, où les gens n'ont pas de travail, ne travaillent pas depuis des années. Et puis, tu as la France de Lyon, de Paris, de Bordeaux, de Marseille, qui est très vivant. Ils sont heureux, il y a beaucoup d'activités dans les rues, il y a des manifestations culturelles. Non, mais le reste de la France... Bah,
mais
non.
En province... Tout le monde s'en va. Les médecins, le dernier médecin s'en va. La poste ferme. Les hôpitaux, il y a de moins en moins d'infirmières, etc. Pour prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, il faut 6 mois, 1 an.
Donc c'est la société civile qui est trouée comme un gruyère quelque part.
C'est ça, les écoles, il y en a fermes les unes après les autres. La qualité aussi de l'enseignement n'est pas le même. Quid des banlieues, j'ai pas trop entendu parler Emmanuel Macron
à
propos
des... Ça n'a pas du tout été dans les sujets, mais en général.
Des banlieues,
pas que Macron,
parce que là, c'est aussi un énorme problème en France. Il y a beaucoup de délinquance, la drogue, les kalachnikovs qui se baladent comme ça en banlieue. Si on veut une kalachnikov, c'est très simple, hein, on va à Bondy.
Oui.
Et puis,
mais ça fait partie de ces territoires oubliés. Ça fait partie vraiment de ces territoires oubliés.
Même la police n'y va pas, ils ont peur. Ils se font tuer, donc ils n'y vont plus.
Alors, si vous n'entendez plus la voix de Charlotte McCarroll, c'est qu'elle a dû nous quitter. Elle avait une réunion importante. On est encore, disons, encore quelques minutes à l'antenne dans ce débat, ce tour de table sur l'après-scrutin présidentiel français. J'ai envie de vous poser une question à propos des deux grands partis de gouvernement qui ont été écartés du scrutin par les Français au premier tour. Donc, les Républicains de François Fillon à droite, le parti que Sarkozy dirigeait auparavant, et les socialistes de François Hollande qui étaient derrière Benoît Hamon. Alors, pourquoi, Dominique, ces deux partis ont-ils été évacués par les Français au premier tour?
Peut-être que les Français, tout simplement, ont essayé la gauche, la droite, la gauche, la droite, et puis qu'ils se retrouvent dans les mêmes difficultés. Il y a eu aussi les primaires, la première fois qu'il y a eu toutes ces primaires. Voilà, je pense que ça leur a desservi. Ouais, ça les a desservis, certainement, toutes ces primaires. Et puis les affaires qui sont sorties.
Les scandales.
Oui, Fillon... Je pense que ça a beaucoup, beaucoup écœuré les gens. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas voter aux extrêmes. Donc, Mélenchon a pris beaucoup de points, Le Pen aussi. Et puis, finalement, voilà, Macron a réussi à sortir son épingle du jeu.
Voilà. Messieurs ?
Je vais faire un parallèle qui est peut-être très lointain et peut-être pas juste, mais j'y pense là, c'est mai 68. En mai 68, c'était une volonté de révolution politique à la base. Donc les étudiants qui se révoltent, et puis petit à petit, toutes les couches de la société qui rejoignent cette manifestation avec des grèves générales et tout ça. Et la revendication, c'était une revendication politique. Il y en a marre de ce système.
Mais c'était aussi changeons la vie. C'était très,
oui, mais c'est ça
très,
qui, finalement,
très ambitieux, très rêveur aussi.
C'est ça qui a gagné. Oui. C'est ce changeons la vie qui a fait que la société s'est libérée, etc., en faveur de la femme, enfin, même au niveau culturel, les médias aussi, la fameuse ORTF qui était assujettie au pouvoir s'est libérée à ce moment-là.
Oui.
Mais à la base, ce que je veux dire, c'est que c'était une revendication un peu anti-système comme aujourd'hui. À l'époque, c'était contre le général de Gaulle. Aujourd'hui, c'est contre les deux partis de gouvernement. Et on voit qu'au final, quand il s'est agi de voter, c'est-à-dire quand le général de Gaulle a fait un référendum en 69 en disant « bon, ben, c'est un référendum sur une réforme régionale », il a dit « voilà, ce référendum, c'est pour ou contre moi ». Donc voter pour ou contre moi. Et là, tous les Français qui avaient crié contre le général de Gaulle, au dernier moment, ils ont eu peur et ils ont voté pour. Ils ont dit oui au référendum, donc on garde le général de Gaulle. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça aujourd'hui, en 2017, où en fait tout le monde crie contre le système, ça va pas, ça marche pas, etc. On est tenté par les extrêmes, mais quand même, il y a une majorité de Français qui ont peur, qui osent pas trop quand même faire la révolution, on va dire, et qui disent bon ben on va vers le vote utile, vers ce candidat-là qui est le plus consensuel, Emmanuel Macron, on vote pour lui et puis on verra ce qui se passe, quoi.
D'accord.
Moi, ce sujet de l'élimination des deux partis, pour la gauche en tout cas, je pense que François Mitterrand a fait beaucoup de mal à la gauche.
En amont, là.
Ouais, parce que le Parti Socialiste est devenu un parti de gouvernement et donc a fait énormément de concessions et s'est rapproché en fait du centre. Au fur et à mesure, c'est décalé vers le centre et on se retrouve en 2012 avec François Hollande. Qui est finalement lui aussi, il était un peu ni droite ni gauche, Hollande, hein, dans l'exercice du pouvoir. Hein, en tout cas, il était pas mal ni droite ni gauche. Donc, au niveau sociétal, on fait des avancées, le mariage pour tous. Au niveau économique, on se soumet. Donc, finalement, les gens voyaient plus. Encore une fois, c'est mon point de vue. Hein, les gens ne voyaient plus. Moi, en tout cas, je ne voyais plus la différence réelle qu'il y avait entre la droite et la gauche. Et je pense que c'est pour ça que les primaires ont fait sortir François Fillon d'un côté très à droite au niveau sociétal, très très contre l'avortement, et puis au niveau économique, très très à droite, et puis de l'autre côté, Benoît Hamon, très à gauche. Donc voilà, je pense que les Français avaient besoin aussi de retrouver des vrais partis avec des vraies idées, et finalement se retrouvent avec un gars qui est entre les deux. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra, mais encore une fois, les législatives vont être tellement intéressantes.
Alors les législatives, les 11 et 18 mai, on va voir comment les Français veulent équilibrer le cocktail. Ça va être vraiment fascinant. Dominique, on pourrait peut-être terminer en indiquant à nos auditeurs comment les Français de Victoria ont voté. Alors, qui ont-ils choisi et dans quelle proportion?
Alors, au premier tour...
il y a 192 votants qui sont venus. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au deuxième tour, il y a toujours eu 192 votants. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Incroyable. Donc on est...
À croire qu'ils se sont concertés.
Ils se sont concertés.
Pas arriver trop nombreux, quoi.
Toujours 192 votants.
Il y avait combien d'électeurs éligibles sur Victoria, selon vous ?
505 qui étaient inscrits à Victoria. Ouais.
D'accord. Donc 40% sont venus voter.
C'est ça. Bon, après, c'est sur toute l'île. Donc forcément, les gens qui habitent à Tofino ou à Nanaimo n'ont peut-être pas pu se déplacer ce jour-là. Mais ils auraient pu faire un proxy, comme on dit.
Oui. Ouais. En chinois.
En chinois. Alors, au premier tour, c'est Macron qui est sorti en premier. J'ai plus
et
les chiffres.
Après,
là.
Moi non plus, mais c'était Macron bien en tête. Et après, Jean-Luc Mélenchon.
Ah, quand même.
Et il y avait 18 Le Pen.
Oui, voilà. Donc, après,
sur 192.
Sur 192.
Voilà. D'accord.
Donc, Macron, Mélenchon, puis Fillon, et puis Le Pen qui avait 18 voix.
Ouais.
Et au deuxième tour, elle a gagné 4 voix, puisqu'elle est arrivée à 22 points.
Et des gens comme Hamon et Fillon, justement, les deux partis de gouvernement, est-ce qu'ils faisaient un blip sur le radar ici à Victoria ou pas du tout ?
Il y a eu quelques votants pour Fillon. Oui, oui, il y a eu quand même quelques votants.
Et pour Hamon aussi ?
Pour Hamon aussi. Et au deuxième tour, donc là j'ai les chiffres trop frais parce que c'était
oui,
samedi
deuxième
dernier.
Tour.
Donc sur 192 votants, 166 pour Macron, 22 pour Le Pen, 1 blanc et 3 nuls.
Ah,
d'accord.
Ça justement, là on n'en a pas parlé, ça va peut-être l'objet
d'un
prochain
débat.
Sur les
blancs et les nuls.
Dans son discours, Mélenchon a fait un discours hier soir, il a dit une phrase, et là, du coup j'ai été vérifié, il a dit que le premier arrivé était Emmanuel Macron, mais que le deuxième c'était l'abstention, le nul et le blanc.
Oui.
Et quand tu regardes, c'est frappant le nombre de personnes qui n'ont même pas été se déplacer pour voter.
Et 12 millions.
Énorme.
Oui.
C'est très frappant. Et le nombre de bulletins blancs et nuls, voilà, ils ont fait plus finalement de voix que Marine Le Pen. Et ça, c'est très inquiétant.
C'est du jamais vu depuis 69.
C'est jamais arrivé.
Mais en France, 25% d'abstention. Le problème, c'est qu'on ne comptabilise pas les blancs et les nuls encore en France.
Hier, ils l'ont comptabilisé.
Exceptionnellement.
Ouais, ouais. Mais ils le comptabilisent au deuxième tour, la plupart du temps, pas au premier.
Mais ils ne sont pas tenus. Voilà, on peut
mais ça ne compte pas dans les pourcentages.
Voilà, on ne les voit pas dans les pourcentages. Et ça, c'était une revendication que je trouve assez importante, d'ailleurs, de Mélenchon, notamment.
Oui.
Je ne soutiens pas particulièrement Mélenchon. mais en tout cas, lui, et je pense que Hamon avait aussi fait cette proposition, que le blanc soit visible dans les scrutins et qu'au cas où il y avait plus d'un certain pourcentage de blancs, qu'on refasse l'élection. Ça, ce serait intéressant.
Ah, ça, c'est intéressant.
Ça serait intéressant,
en effet.
Le blanc, justement, dépasse toutes les attentes.
Alors, pour qu'on ait le plaisir de se revoir autour de cette table, réservons le sujet des législatives pour une autre fois. Il y aurait beaucoup à dire. Les partis historiques vont-ils pouvoir placer leur bille? Ça reste à voir. Adrien Blanc, Guillaume Kiefer, Dominique Wozniak, un grand merci de vous être livré à ce jeu d'analyse suite au second tour de la présidentielle française. Vous écoutez CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute de cette émission spéciale sur la présidentielle française. À tout de suite. Voilà qui conclut ce tour de table, chers auditeurs, tour de table avec nos invités français résidents de Victoria, venus à notre micro aujourd'hui pour partager leurs ressentis, leurs réactions, leur analyse suite à l'élection dimanche 7 mai d'Emmanuel Macron à la tête de l'État français. Merci de nous avoir accompagnés dans cette édition spéciale du débrief pour les 7 et 8 mai à l'antenne de CILS FM 107,9, votre radio communautaire francophone dans la grande région de Victoria. On va se retrouver demain, même heure, même fréquence, et dans les prochains jours, on braque les projecteurs sur l'élection provinciale de Colombie-Britannique. À très bientôt dans l'émission Le Débrief.